France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Alors l'émission est commencée depuis 24 secondes et toujours pas de nouveau dérapage de Laurent Wauquiez. Alors je sais pas ce qu'il perdrait la main, en tout cas c'est à suivre. Et eux, ils ne sont pas enregistrés, mais bien en direct, même si on garde les bandes, bien sûr. Hein. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la communicante Aurélie Motarivet, bonsoir.
Bonsoir.
Également l'écrivain André Berkov, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes lancé dans la Web TV,
André? Absolument. Francelibre.tv.
Très bien, voilà. Donc, c'est votre vision des médias.
Pas seulement des médias, de la société, d'un peu tout. On va essayer d'être le poil à gratter. On continue sur la lancée.
Ah, mais bien sûr, je vois ça, en tout cas. Également, Paul Quignot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur délégué de la rédaction de Libération. Et Albert Zenou du Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, nous parlerons du Macron et le service public, le Malamour, Marion Maréchal Le Pen, l'immigré, le temps d'une conférence à Washington. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors, il y a un peu plus d'une heure, ça y est, Laurent Wauquiez a parlé, il s'est expliqué, puisque je sais pas si vous êtes au courant, mais depuis 4 jours, en fait, on ne parle que de ça. Et c'est amusant d'entendre Laurent Wauquiez en direct, puisqu'il ne change pas de quand il est enregistré, en fait. Et il a surtout voulu mettre les choses au point concernant ses déclarations, vous savez, à l'EM Lyon, il a donné un cours, et lors de questions-réponses, il s'est un peu lâché. C'est l'émission Quotidien, diffusée sur TMC, qui depuis vendredi diffuse des extraits. Laurent Wauquiez tacle aussi bien Emmanuel Macron, La République En Marche, le MEDEF, les syndicats, même Nicolas Sarkozy, on va en reparler. Il a même dit que nous étions dans une dictature totale avec les guignols, je cite, de La République En Marche. Alors, est-ce qu'il répéterait ses propos en public? Eh bien oui, on va l'écouter tout de suite, Laurent Wauquiez.
Ce que j'ai dit devant les étudiants, je le redis exactement de la même manière devant vous, sur tous les sujets, Madame Routel-Krieff,
juste
parce que j'assume. J'assume les propos qui ont été les miens. Je n'utilise évidemment pas les mêmes mots quand j'en suis dans une enceinte avec 30 étudiants ou quand je suis devant ce plateau devant vous. Mais c'est exactement le même fond. Ce sont exactement les mêmes convictions parce que je n'ai pas de double langage.
Alors, Laurent Wauquiez sur BFM. Alors, Aurélie Motarivet, est-ce que dans sa technique finalement, de communication, on l'a vu très droit, très précis, direct, assumant tout, c'est une bonne technique de communication?
Je crois que Laurent Wauquiez n'avait pas tellement d'autres options finalement que de se trumpiser au point où il en était. On pouvait se demander il y a quelques heures effectivement si c'était un suicide ou si c'était une stratégie de communication très maîtrisée finalement. Et on a la confirmation que c'était plutôt une stratégie de communication. En tout cas, c'est mieux d'apparaître comme stratège que comme débutant ou amateur, puisqu'on a du mal à imaginer qu'à son niveau d'expérience politique, il ne sache pas qu'aujourd'hui il n'y a pas de off, a fortiori devant cette enceinte. Donc je pense qu'il est dans une stratégie de communication après qui me semble assez suicidaire, puisqu'il y aura toujours, une forme de présomption d'insincérité. En tout cas, il a fait son propre procès en insincérité, en expliquant qu'il est dans les médias en particulier et chez vos confrères, il raconte des mensonges.
André Berkov, il a raison comme ça de dire, voilà, aujourd'hui, j'assume tout, que ce soit sur votre plateau, devant le public, que ce soit devant les étudiants.
Je crois que c'est une stratégie totalement assumée, mais on ne l'a pas entendu ce soir. C'est une stratégie voulue. C'est quand il a parlé du bullshit médiatique.
Oui.
Tout le monde a dit, ah oui, regardez, il assume qu'il dit bullshit. C'est pas le seul politique qui bullshit médiatiquement. On en connaît tous, on va pas faire l'inventaire. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé quelle position et quel espace il avait. Face à Macron aujourd'hui, face au Parti Socialiste où il est, aux Républicains tels qu'ils se délitent, à la France Insoumise telle qu'elle ne sait pas où elle est, etc., etc. Et il s'est dit, la seule manière, à tort ou à raison, mais je ne juge pas, constate, à tort ou à raison, il s'est dit, la seule espace que je peux occuper par rapport face à Macron et à être l'opposant numéro un, ou en tout cas l'alternative, c'est de frapper Karcher, c'est de frapper fort. Lui, c'est vraiment ça, il le dit depuis le début, il l'a assumé. Je ne peux pas croire une minute, vous l'avez dit, je ne peux pas croire une minute qu'il ne sache pas que quand il est devant 30 étudiants à Lyon, devant une personne et demie, on sait très bien que ça va être repris, déformé, enregistré.
Surtout qu'il a dit, surtout, n'enregistrez pas, voilà, au début.
Et il a dit, à la fin, il a dit, je sais quand il y a deux personnes...
Il n'y a pas d'off, il le dit lui-même.
Voilà, donc, si vous voulez, je ne dis pas qu'il l'a fait exprès, mais résultat des courses, depuis 3 jours, on ne parle que de ça, et je crois franchement que ce n'est pas suicidaire et que ça l'établit. On verra la suite.
C'est sûr, Albert Zenou.
Je partage assez l'analyse de
dans des Berkoff. Je pense que c'était totalement involontaire. Je pense qu'il ne pensait pas être enregistré. Donc,
d'accord.
Peut-être qu'au fond de lui-même, il y a peut-être un doute, mais ça, je ne crois pas.
Un acte manqué.
Il s'est senti. Sa seule solution, c'était effectivement d'assumer complètement ses propos. D'autant qu'il est dans une stratégie de rupture. Sarkozy l'avait fait un peu avant lui. Là, il est effectivement coincé. Il a compris que l'axe centre-droit lui était interdit, puisque toutes les grandes figures du centre-droit passent chez Macron. Il ne lui reste plus que la droite. Et alors, à titre d'exemple, on avait posé la question aux internautes du Figaro, savoir s'ils approuvaient le langage de Wauquiez. C'était 50-50. Vraiment et sur à peu près une centaine de milliers de participants. Donc c'est une grosse masse. Et avec des commentaires qui étaient très très positifs pour Wauquiez. Il y a une adhésion du peuple de droite à cette volonté d'affirmer des choses, de dire les choses et ne pas être dans le politiquement correct.
Alors le politiquement correct, justement, il y est revenu dessus. Et voilà ce qu'il a dit à propos de ce traitement médiatique cette affaire, tout simplement. Eh bien, il est une victime, Laurent Wauquiez.
Ce que je pense, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. Ce que je pense, c'est que le système médiatique a ceux qu'il cible et ceux qu'il protège. Ce que je pense, c'est que la droite a souvent fait l'objet de ces procès médiatiques, que Nicolas Sarkozy a eu à les affronter, que François Fillon les a subis, que aujourd'hui, je ne suis pas dupe de ce qui est en train de se passer. J'en suis la cible, et si je suis venu sur votre plateau, c'est pour vous dire que ça ne m'impressionne pas, que ça ne me fera pas reculer et que ma détermination n'a jamais été aussi forte.
Alors, Wauquiez est donc sur BFM, Paul Quignot, procès médiatique. En effet, il se place comme Nicolas Sarkozy, comme François Fillon.
C'est ridicule. D'abord parce que les médias s'intéressent à tout le monde. Il y a des médias qui sont divers. Il y a des médias de gauche, il y a des médias de droite, il y a des médias d'extrême droite. Donc, on s'intéresse à qui on veut. Donc, et des procès de gens de gauche, on en a fait. Il y a Cahuzac qui est aujourd'hui précisément en procès. Donc, cet argument-là est juste ridicule. Je voulais juste rajouter une chose par rapport à ce qui a été dit sur ça. C'est évidemment une stratégie. Je suis d'accord avec vous et malheureusement elle sera peut-être payante pour Wauquiez. Néanmoins, je la trouve à la fois incohérente et désolante. Incohérente parce que quand il est devant les étudiants de Lyon l'autre jour, il dit « je vais vous parler vrai devant vous là, je vais pas faire comme je fais d'habitude sur les plateaux médiatiques, je vais pas vous dire du bullshit, je vais vous dire la vérité ». Donc, et aujourd'hui, il explique à Rutel-Krieff qu'il dit la même chose devant les étudiants et sur son plateau. Donc il y a une incohérence. Et cette incohérence, cette stratégie, en tout cas, elle est désolante. Pourquoi ? Parce que c'est cynique. Bien sûr qu'il n'est pas le premier à l'être. Et qu'il n'est pas le premier à avoir. Et bien sûr. Et qu'il n'est pas le premier à abîmer la politique.
Sur la forme que sur le fond. Sur la fond, il dit la même chose.
On va continuer. On va en parler dans un instant. Vous savez, on est toujours un peu pressé. L'info à 20h10, Julie Smul.
Laurent Wauquiez assume, invité sur BFM pour s'expliquer après la diffusion de ses propos polémiques pendant une conférence devant des étudiants lyonnais. Le patron des Républicains dénonce les méthodes de voyous des journalistes de quotidien, parlant de manipulation et d'embuscade. Laurent Wauquiez annonce qu'il porte plainte et qu'il saisit le CSA. La seule chose qu'il regrette, ses propos visant Nicolas Sarkozy. Il s'est d'ailleurs excusé. À la une aussi, la tension maximale ce soir en Syrie. L'armée turque bombarde les forces pro-régime à Afrin, cette enclave kurde au nord-ouest du pays. Des tirs d'avertissement, c'est inédit, un mois jour pour jour après le début de l'opération Rameau d'Olivier, opération contre les milices kurdes en Syrie que la Turquie considère comme terroriste. La nouvelle carte des zones agricoles défavorisées risque d'inquiéter les agriculteurs de 5 départements, ceux qui vivent dans les Deux-Sèvres, l'Indre, la Loire, le Loiret et le Maine-et-Loire. De nombreuses villes dans ces départements sortent de ces zones défavorisées. Ça veut dire moins d'aides européennes pour les agriculteurs qui y sont installés. Opération de la police espagnole et française. Aujourd'hui, arrestation de 3 personnes dans le sud de la France, soupçonnées d'avoir des liens avec l'un des terroristes des attentats de Catalogne l'été dernier. Et puis 13 médailles en tout ce soir pour la France au JO de Pyeongchang. 3 remportées aujourd'hui, 2 en argent, 1 en or, celle du relais mixte de biathlon.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, Laurent Wauquiez s'est donc expliqué sur ses propos, c'était tout à l'heure sur BFM, on parlait justement du cirque médiatique, puisque Laurent Wauquiez pense qu'il est une victime médiatique, tout comme Nicolas Sarkozy l'aurait été, comme François Fillon l'aurait été. C'est une bonne stratégie, André Bercoff, parce que ça on l'entend aussi souvent, hein, le procès des médias.
Non, bien sûr, non, mais il faut pas dire, je crois pas du tout que c'est incohérent ou mauvais ce qu'il fait. Je veux dire, de son point de vue, attention, dans son intérêt. Pourquoi ? Parce que effectivement, il faut bien voir, il y a eu quand même, l'histoire Fillon a été assez hallucinante. Je voudrais comparer deux choses. Quand vous dites, effectivement, on parle des gens de droite et de gauche, c'est vrai, Cahuzac et compagnie, c'est vrai. Simplement, regardez un traitement. On va parler d'un traitement. Fillon, 2 ans après l'article du Canard enchaîné, le parquet national financier déclenche l'opération. Et alors, c'est pas l'artillerie lourde, hein, c'est la Panzer-Division des Ardennes qui traverse. Bon. Anne Hidalgo, a tout raison, je crois, la présomption d'innocence, et accusé d'emploi fictif, y compris par le Canard enchaîné, dans à l'inspection du travail.
Capital.
Est-ce qu'il y a eu c'était Capital. Est-ce qu'il y a eu saisie du parquet national financier? Est-ce qu'il y a eu une saisie quelconque? Non. Il y a je dis pas droite gauche, mais il y a incontestablement différence de traitement. On peut pas nier.
Je pense que Thomas Thévenoud n'a pas été non plus. Vous voyez, Thomas Thévenoud, ministre de François Hollande.
Il a déposé la phobie administrative.
Mais bien sûr, mais on peut pas dire que médiatiquement, on n'est pas suivi quand même le dossier.
Ce que je veux dire, au-delà de ça, évidemment, il joue à la victime. Juste un mot. Quel est aujourd'hui, il y a un problème, et qui est peut-être, on va accuser de populisme, tout ça. Il y a un problème de malaise en France, entre France périphérique, le problème des retraites, le problème de la dette, des problèmes de, vous savez, même des migrants, etc. Il y a un problème. Il joue là-dessus. Alors, on peut lui reprocher ça. Moi, j'ai pas de jugement moral là-dessus. Je constate simplement qu'il occupe une position.
C'est pas un jugement moral, c'est un jugement politique. C'est juste désolant pour la politique d'essayer de capitaliser sur cette fracture-là et sur ce populisme-là.
Mais ils l'ont tous fait. Oui. Sarkozy l'avait fait.
Continuons à nous en réjouir. Et puis, on refera des articles dans 2 ans sur le cynisme politique et sur la montée de l'extrême droite.
Ça ne marcherait pas. Pourquoi il y a 11 millions d'électeurs du Front National après?
Il y en aura 15 dans 2 ans, c'est avec ce type de comportement. Donc continuons.
Une chose, Aurélie Montarrivé, il y a une seule personne, parce que beaucoup de gens lui demandaient de s'excuser, même François de Rugy, même Valérie Pécresse. Il a dit Nicolas Sarkozy, là, par contre, non, il faut vraiment que je m'excuse. Là, on sent bien qu'il y a quand même, même s'il peut se fâcher avec Alain Juppé, avec Valérie Pécresse, on sent bien que Nicolas Sarkozy, c'était peut-être le hiatus, c'est là où il fallait pas aller.
En fait, quand on se demandait si c'était un suicide ou une stratégie de communication calculée, on a la réponse, je pense que c'est une stratégie de communication, effectivement, et c'était volontaire, mais il y avait 7 incohérences, une seule incohérence à mon sens dans cette stratégie, c'était précisément Nicolas Sarkozy, puisqu'il tapait sur la personnalité dont il se réclame l'héritier.
Le statut du commandeur.
Voilà, est-ce qu'on est peut-être dans la psychanalyse, et tu le perds, j'en sais rien. En tout cas, c'était le seul défaut en termes de stratégie de com, et donc ça, il l'a corrigé.
C'est intéressant.
Bon, Sarkozy, c'était la personne qu'on ne pouvait pas toucher. Dans l'électorat de droite, c'est la figure du commandeur. Et dans cet électorat de droite que Wauquiez vise, il est important d'avoir, d'autant que pratiquement tous les soutiens de Sarkozy au moment de la primaire, de la droite, ont rejoint Wauquiez. Donc, aller taper Sarkozy comme il l'a fait à l'UM Lyon, ça prouve que c'était pas programmé.
Et Paul Quignot.
Je suis d'accord que ça peut lui profiter et je comprends les arguments stratégiques politiquement pour lui. Mais il y a quand même quelque chose qui peut lui faire mal, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le procès en insincérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Laurent Wauquiez va venir sur un plateau faire une interview dans le Figaro, dans Libération, est-ce qu'on devra le croire ou pas sur ce qu'il nous raconte, puisqu'il dit lui-même que quand il est sur un plateau télé, c'est du bullshit. Donc il peut faire des dégâts.
C'est la raison pour laquelle il a tenu à assumer complètement ses propos. Alors on peut dire que
il
nuance un petit peu, mais à peine, il nuance pas. Enfin, il le tient absolument. Justement, ce procès d'insincérité lui est fait depuis le début, et il entend c'est sa stratégie. Hein, il entend combattre
ce. Il y en a pas d'autres.
Hein.
Ce défaut.
André Bercoff.
La stratégie, c'est la seule stratégie. Le reste, vous savez, on a dit trumpisé, pas trumpisé. C'est complètement imbécile. Effectivement, le point commun, c'est que vous vous rappelez que Trump, lui, avait pratiquement toute la presse contre lui. Mais dès le départ.
Oui, bien sûr.
Il n'y avait que Fox News qui était là, mais même le Parti Républicain. Qu'est-ce qu'il a fait? Et je pense que de ce point de vue, à tort ou à raison, il essaye d'imiter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué la presse par ses tweets, par les réseaux sociaux, à mort. Moi, j'ai assisté à 2 meetings, il y allait sur la presse. En permanence sur les médias, sur la presse, etc. Et à lui, ça lui a servi. C'est-à-dire que les gens l'ont suivi. Est-ce que ici, c'est une question que je pose, est-ce que les Français, ou en tout cas une partie des Français, vont dire, mais oui, la presse traite très mal Laurent Wauquiez parce qu'il dit la vérité, parce qu'il dit les choses qui gênent, et donc ça gêne les médias? Ça, c'est clair.
Une chose, André Bercoff, vous êtes un journaliste, vous avez interviewé Donald Trump pendant la campagne. Pour vous, quand on dit il fait du Trump, justement, là, vous dites inconscient, mais est-ce qu'il y a une ressemblance ou pas?
Non, rien à voir. Rien à voir pour une raison extrêmement simple, c'est que l'autre, dès le départ, a porté, si vous voulez, le doigt sur le nerf de la France des profondeurs, de l'Amérique périphérique.
Ouais. Okay,
de la, pardon, je dis la France des profondeurs, sur l'Amérique périphérique. Bon, et puis il avait derrière lui, excusez-moi, sa fortune et des moyens. Le problème, c'est que, est-ce que Wauquiez a les moyens de sa stratégie, pas seulement les moyens matériels, mais les alliances et tout ça.
Une stratégie très solitaire. Il démontre son isolement.
Il a dit ce,
attention,
ce soir,
oui. sauf que son rêve,
il a peu de soutien dans cette séquence quand même,
avec les électeurs du Front National. Oui. Il va essayer de refaire la stratégie de Sarkozy.
Alors, une chose, il y a quand même eu dans toute cette séquence, à un moment bien sûr, Laurent Wauquiez qui traitait, alors je ne sais pas si c'est un réflexe d'avoir le siège du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon, mais il a traité donc les gens de La République En Marche de guignols. Qu'on était dans une dictature totale aujourd'hui, puisqu'il n'y avait plus qu'une chambre d'enregistrement. C'était un peu oublié 1993 et les 300 députés UMP, RPA de l'époque, UDF. Mais justement, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Eh bien, on a réussi à l'attraper à la volée. On va l'écouter quand un journaliste lui pose la question des propos de Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron.
Rien, parce qu'il n'est pas inspirant. Moi, je travaille. J'ai autre chose à faire.
Voilà, il n'est pas inspirant. Est-ce que ça rejaillit? Ça rejaillit sur tout le monde, en effet, Aurélie Motarivé?
Il se place logiquement au-dessus de la mêlée dans sa logique jupitérienne, et je pense qu'il a raison en termes de communication d'ailleurs. Ouais. Il n'y a pas tellement d'autres options. Ce qui est intéressant, je pense, pour revenir à Laurent Wauquiez dans sa séquence sur BFM TV, c'est précisément qu'il cite beaucoup Emmanuel Macron, et donc il se sert de cette séquence aussi pour se comparer et se présidentialiser.
Et s'opposer.
Wauquiez, aujourd'hui, depuis son émission, l'émission politique il y a quelques semaines, s'oppose comme l'opposant principal. Ça a longtemps été, au début du quinquennat, Mélenchon. Aujourd'hui, il s'oppose comme le premier opposant.
Même s'il a fait un mauvais score d'audience.
Mais il a fait un très très bon score dans l'approbation, il était convaincant.
Paul Quignot.
Alors, le problème, c'est que pour être le premier opposant, il aura aussi besoin d'une famille politique réunie, et que, à mon avis, ce qui est en train de se passer ne va pas l'aider beaucoup.
Allez, dans un instant, on va parler justement d'hommes de gauche, dont on avait beaucoup évoqué l'histoire. C'est Jérôme Cahuzac, l'info à 20h20, Julie Smul.
Et la Syrie à la une ce soir avec ses bombardements turcs sur les forces pro-gouvernementales à Afrin, au nord-ouest du pays. C'est une première, la Turquie qui mène une opération sur place contre des milices kurdes depuis un mois. Plus au sud, sur la région rebelle de la Ruta, les raids aériens du régime sur la population continuent. Une centaine de morts, aujourd'hui le même nombre déjà qu'hier. 6 hôpitaux bombardés, 3 sont ce soir hors service. Propos assumés ce soir par Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, qui ne s'excuse pas, sauf auprès de Nicolas Sarkozy. Il avait affirmé que l'ex-président avait placé ses ministres sur écoute. Sur tout le reste, Laurent Wauquiez assume. Il annonce aussi qu'il porte plainte et qu'il va saisir le CSA. Laurent Wauquiez dénonce les méthodes de voyous des journalistes de Quotidien, parlant de manipulation et d'embuscade. 3 ans de prison requis ce soir contre Jérôme Cahuzac, même peine qu'en première instance. L'ex-ministre du Budget jugé en appel pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Pour l'avocat général, sa culpabilité est, je cite, à l'évidence établie. Le Conseil d'État refuse de suspendre la circulaire Collomb, cette circulaire qui organise le recensement des migrants dans les hébergements d'urgence, mesure qui provoque l'inquiétude et la colère d'une trentaine d'associations qui dénoncent une logique de tri. C'est demain que doit être présenté en Conseil des ministres le projet de loi Asile et Immigration.
France Info. 20h, 21h. Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors dans la série, il a bien fait de venir, il n'a pas perdu sa journée. Il n'y a pas que Laurent Wauquiez, non, il y a aussi Jérôme Cahuzac. Puisqu'en effet, dans son procès, on appelle l'accusation a requis donc aujourd'hui la confirmation de la peine de 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité infligée en 2016 à l'ex-ministre du Budget en expliquant, je cite, et la phrase est assez sévère, « Votre plus grande contribution à la lutte contre la fraude fiscale aura été votre procès ». Voilà. Une phrase donc de l'avocat général, demain place à la défense, mais une confirmation du jugement dans la semaine enverrait directement Cahuzac en prison. On écoute l'avocat de la partie civile, donc en fait qui représente l'État, Maître Xavier Normand Bonnard.
Elle est grave de par la personnalité de Jérôme Cahuzac, qui
pendant une période importante de sa vie, était le ministre du budget, donc le responsable de la lutte contre la fraude fiscale, et qui, vis-à-vis de tous les agents de l'administration fiscale, est celui qui a incontestablement trahi ce qu'il représentait, et à leurs yeux, cela a été quelque chose d'extrêmement difficile.
Voilà, Maître Xavier Normand Bodard. Alors, juste au départ, Albert Zeno, est-ce qu'aujourd'hui, Jérôme Cahuzac est devenu un symbole ? C'est-à-dire, on parle, là, on juge un homme, forcément, mais est-ce qu'il y a aussi un symbole, véritablement, dans ce procès ?
Symbole de la fraude fiscale, oui, sans doute.
Oui,
ce qui est incroyable, c'est qu'il a été le ministre qui était censé lutter contre la fraude fiscale, et ce qu'on s'aperçoit qu'il en profitait lui-même.
Est-ce que la peine est lourde aussi parce que par rapport à ce symbole dont je parlais, ça.
Bon, je pense que ça a beaucoup joué dans la tête de, en tous les cas, du magistrat instructeur qui réclame trois ans de prison. Oui, ça a beaucoup joué. Il faut se rappeler que à l'époque, Hollande était président de la République. Ça allait pas très bien déjà dans l'opinion publique. L'affaire Cahuzac a été un tsunami médiatique, un tsunami politique pour le gouvernement de l'époque. Donc effectivement, c'est lourd, ça va être lourd, mais on peut pas y passer à travers.
C'est compliqué. Oui. Paul Quignot, c'est vrai que si sa peine est confirmée, est-ce que finalement, quand je parlais de symbole, est-ce que ça peut être aussi ce symbole ? On a beaucoup parlé d'optimisation fiscale, d'exil fiscaux, des choses comme ça. Est-ce que ça peut être aussi quelque chose pour dire, voilà, regardez jusqu'où ça peut mener de frauder ?
Alors, c'est un symbole sur cette question de la fraude fiscale, mais ça a aussi été un symbole sur la question de la crédibilité de la parole politique. Parce qu'en fait, ce qu'on a aussi beaucoup reproché à Cahuzac, c'est d'avoir dit à l'Assemblée, les yeux dans les yeux de tous les députés, je n'ai jamais eu de compte en Suisse. D'une certaine manière, ça nous rapproche un tout petit peu de l'histoire de Wauquiez, sur la crédibilité de la parole politique, même si c'est pas, les affaires ne sont pas similaires, mais il y a quand même un petit relent d'insincérité qui est désolant. Après, sur la dureté de la peine, j'ai du mal à me dire que que la prison soit la solution ou la peine la plus dure. Je n'ai aucune complaisance ou sympathie avec l'attitude qu'a eu Jérôme Cahuzac. J'ai du mal à me dire que sa place sera en prison, ou en tout cas qu'il y a de la place pour lui en prison, alors qu'elles sont déjà totalement surchargées. Et qu'une peine, que des amendes financières très fortes, des peines d'éligibilité plus fortes auraient été peut-être aussi dur, finalement.
Aurélie Motarivé.
Je crois que moi, c'est surtout, d'une certaine manière, la fin de l'adage « on n'est jamais mort en politique ». Je crois qu'il y aura un avant et un après Cahuzac, d'une certaine manière.
Déjà, on l'a vu. Il y a eu vraiment des mesures de prise. Entre bien sûr, il y a la haute autorité pour la transparence de la vie publique, politique.
C'est devenu, en fait, un peu un cas d'école sur la partie tribunal de l'opinion, puisqu'il a fait tout ce qu'il ne faut pas en termes de communication. Il était dans le déni plutôt que d'être dans la transparence. Il a fait feuilletonner l'affaire et donc il a cassé sa capacité de rebond réputationnel. Et là, effectivement, on a le sentiment qu'il n'y avait plus d'impunité médiatique et il n'y a plus d'impunité tout court pour les politiques. Je crois vraiment que le message envoyé aux Français avec cette peine, c'est celle-ci.
Alors André Bercoff, c'est vrai qu'il y a eu la mise en place de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, il y a eu d'autres mesures répressives pour les fraudeurs fiscaux, mais on voit que ça continue. Ça continue, malgré ça. Finalement, aujourd'hui, ce jugement peut faire quelque chose dans la lutte contre la fraude fiscale ?
Serge Gainsbourg avait écrit « Requiem pour un con ». Là, c'est « Requiem pour, effectivement, le clivage politique ». C'est-à-dire que Cahuzac, n'oubliez pas, appartenait à un gouvernement de gauche. Et le gouvernement de gauche avait coutume de donner des leçons. Je me rappellerai toujours le discours de Hollande du Bourget, on se rappelle tous. « Notre ennemi n'a pas d'yeux, n'a pas de visage, c'est la finance
».
Et Cahuzac, ministre en vue du gouvernement Hollande, pourquoi ? Ça ne veut pas dire que ça accable la gauche plus que la droite, mais jusqu'à présent, c'est la droite. On savait très bien, optimisation fiscale, Panama Papers, paradis fiscaux, Nauru et compagnie. Ça, c'était normal. C'était l'ADN de la droite. Et puis tout d'un coup, on découvre que la gauche, qui rentre par l'escalier de service, qui découvre la vaisselle argentée, eh ben une partie de la gauche, elle tombe aussi là-dedans. C'est-à-dire que Cahuzac, là où ça a fait des dégâts énormes, mais même c'est qu'il y avait, on se disait, mais voilà, où est la morale ? Où est ces donneurs de leçons qui vous donnent du matin au soir des leçons, où ils sont ?
C'est l'effet boomerang de la propre stratégie.
La tradition ancienne des fraudeurs, c'était de dire quand on est à gauche, on fraude, mais pour le parti. Il n'y a pas d'intéressement personnel.
Une facture.
Donc c'était pour l'intérêt supérieur du parti.
C'est ce qu'a essayé de jouer Cahuzac
dans sa défense. Ouais. C'est-à-dire, en gros, il impliquait les réseaux rocardiens.
Bon, c'est ça.
Si j'ai fraudé, c'est pour financer la campagne future de Rocard. Je reviens sur une chose qui fait le lien avec Wauquiez en deux minutes. Moi, j'ai déjeuné avec Cahuzac quelques jours avant la révélation finale de sa fraude. Et c'était impressionnant. C'est-à-dire on était plusieurs journalistes, il nous a tous convaincus qu'il était innocent.
Il était innocent.
Ce qui revient à Wauquiez, là où je fais le lien, ouais. C'est que quand on fait, pour ça que dire que on ne sait pas qu'on a enregistré, quand on fait des déjeuners avec des hommes politiques, on en fait tous ici, ils se lâchent. Beaucoup plus que Wauquiez.
Bah écoutez, en tout cas, vous pouvez venir aux Informés de France Info aussi pour vous lâcher. Dans un instant, on va parler d'immigration, on parlera également de services publics. Dans un instant, voilà la suite du programme des Informés de France Info.
T'as vu, maintenant chez BMW, tu peux être surclassé.
BMW, ce sont des voitures, pas des avions.
Si, surclassé avec projecteur LED, jambes 18 pouces, fonction park assist, système de navigation multimédia.
Ah, je pars tout de suite.
Demande la BMW X1 finition X-Line à 420€ par mois sans apport et entretien inclus.
Ah, j'adore cette destination.
BMW X1 finition X-Line, voyagez surclassé.
Loyer jusqu'au 15 mars 2018 pour la BMW X1 S-Drive 18i X-Line, LLD 36 mois, 30 000 km après acceptation par BMW Finance. Détails sur bmw.fr.
France Info Météo, avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performantes et design, pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Demain, la journée s'annonce plus clémente. La perturbation qui nous concerne depuis le début de la semaine va encore apporter un peu de neige demain matin le long des Pyrénées, des 400 mètres. Mais des éclaircies vont revenir demain après-midi. Sur l'extrême sud-est, le temps restera instable. Des averses vont émailler la journée. Parfois neigeuses à très basse altitude en début de matinée entre l'est des Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. L'après-midi, les averses concerneront surtout la Corse avec une limite plus neige vers 600 mètres. Partout ailleurs, la journée s'annonce plutôt agréable avec de belles éclaircies. En matinée, il faut tout de même composer avec quelques plaques de grisaille, notamment de la Vendée à la Charente-Maritime jusqu'au Lyonnais et au sud d'Alsace. Le soleil sera plus présent l'après-midi, hormis entre le massif central, la Savoie et le Jura, où les nuages resteront prédominants. Demain matin, les gelées seront fréquentes, pouvant rendre les routes glissantes. L'après-midi, les maximales seront en légère baisse. Prévoyez 4 degrés à Strasbourg et Aurillac, 6 degrés à Lille, Paris et Lyon, 8 degrés pour Rennes et pour Bordeaux, et jusqu'à 12 degrés à Toulon et Ajaccio. Enfin, soyez prudents dans le sud-ouest, une vigilance orange reste en cours pour des risques d'avalanches et d'inondations.
France Info.
Deux points. Ouvrez l'info.
L'info à 20h30, c'est Augustin Arrivé, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Deux fronts principaux en Syrie, la Ghouta orientale près de Damas dans le sud avec des bombardements par les forces du régime en place. L'Observatoire syrien des droits de l'homme évalue à plus de 100 le nombre de victimes civiles rien qu'aujourd'hui. 3 hôpitaux seraient désormais hors service. Et puis l'enclave d'Afrin à la frontière turque au nord-ouest. L'armée turque est déployée pour combattre les Kurdes. Les forces pro-Assad y sont entrées également aujourd'hui. Hervé Toutain, il s'agit pour ces soldats de défendre l'intégrité territoriale.
L'entrée des forces syriennes, plusieurs centaines d'hommes dans l'enclave d'Afrin a immédiatement provoqué une réaction violente d'Ankara. L'artillerie turque est entrée en action, ciblant les positions nouvellement acquises par les forces de Damas, qui doivent se déployer précisément le long de la frontière avec la Turquie. Hier, l'agence officielle syrienne Sana indiquait que les forces pro-Assad allaient se joindre à la résistance des Kurdes contre l'agression turque. Rien n'empêchera Ankara de poursuivre son offensive, avait répondu le gouvernement turc. L'escalade militaire à Afrin et la situation humanitaire catastrophique dans la Ghouta orientale où les morts se comptent par centaines depuis le début du mois suscite la vive inquiétude de la communauté internationale. À Paris, Jean-Yves Le Drian estime que le pire est devant nous en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères doit se rendre dans les jours qui viennent à Moscou et à Téhéran. La Russie et l'Iran, fidèles alliés de Bachar al-Assad.
Hervé Toutain, les agriculteurs français inquiets avec les modifications de la carte des zones défavorisées. Mobilisation demain de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. On parle de ces aides européennes versées en fonction des implantations des exploitations. France Info a eu accès à la nouvelle carte des départements moins bien lotis. Le Loiret, les Deux-Sèvres, l'Indre, la Loire et le Maine-et-Loire. 1380 communes sortent du système, mais 4900 l'intègrent. Ça fait 7000 agriculteurs bénéficiaires supplémentaires supplémentaire, plus 13%. Laurent Wauquiez assume tout ce qui a été rapporté par l'émission Quotidien. Pour autant, il compte porter plainte. Il dénonce des méthodes de voyous. Le président du Parti Les Républicains regrette simplement ce qu'il a pu dire au sujet de Nicolas Sarkozy, à savoir qu'il mettait sur écoute ses ministres lorsqu'il était à l'Élysée. Justement, le canard enchaîné à paraître demain relaie une conversation téléphonique fleurie entre les deux hommes. Suite à cet épisode, l'ancien président de la République aurait traité son interlocuteur de grosse merde. Jérôme Cahuzac, jugé en appel à Paris, l'avocat général a requis contre lui la même peine qu'en première instance, 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité. L'ancien ministre du budget poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment. La 24e journée de Ligue 1 de football, un match en retard 3-Dijon, score final 0 partout ce soir. La suite des 8e de finale aller de Ligue des champions de football, Bayern Munich, Beşiktaş et Barça Chelsea, c'est à 20h45. 20h33 sur France Info, les informés, partie 2 avec Jean-Mathieu Pernin.
20h21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils donnent un rythme un peu funky, on va dire ça, à l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent la communicante Aurélie Motarivet, l'écrivain André Bercoff, également l'un des dirigeants médiatiques, on peut dire ça maintenant, hein, de Web Media, puisque voilà, de la France Libre, Paul Quignot, directeur délégué de la rédaction de Libération, et Albert Zenou du Figaro. À la veille de la présentation du projet de loi Asile et immigration en Conseil des ministres, c'est petite laine ou t-shirt. Pour faire simple, le froid et le chaud sont soufflés en même temps. La météo idéale pour la grippe. Alors qu'hier, Aurélien Taché, député La République En Marche, présentait un rapport pour une meilleure intégration des personnes immigrées, en début d'après-midi, c'est le Conseil d'État qui annonçait qu'il refusait de suspendre la circulaire Collomb. Alors, la circulaire Collomb, souvenez-vous, une vingtaine d'associations avaient saisi les sages pour tenter de suspendre ce texte permettant à l'État d'envoyer dans les centres et hôtels sociaux des, on va dire, entre guillemets, équipe mobile constituée d'agents de préfecture et de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour recenser les personnes hébergées selon leur droit de séjour. Et demain, l'ambiance promet d'être donc un brin tendu à l'Assemblée, selon le député Nouvelle Gauche, Luc Carvounas.
On nous parle d'humanité, mais ce que je vois surtout dans le texte qui va être présenté demain, c'est tout le contraire. C'est demain un statut de garde à vue de l'étranger qui est décrit dans le texte de loi. C'est
où
demain.
Vous voyez le statut de garde à vue.
C'est dans le texte. Vous verrez, il y aura un statut particulier où, d'ailleurs, la personne interpellée ne pourrait ne pas avoir accès tout de suite à un médecin, à un interprète. C'est ça la réalité. Donc il y aura un débat demain dans l'hémicycle. Et moi, je peux vous le dire, le groupe Nouvelle Gauche auquel j'appartiens, on va faire le job.
Voilà, Luc Carvounas, donc sur France Inter ce matin, député Nouvelle Gauche, Paul Quignot, c'est une victoire pour Gérard Collomb, le fait que cette circulaire si symbolique ne soit pas suspendue par le Conseil d'État?
Oui, forcément, c'est une petite victoire politique, mais le vrai rendez-vous, c'est celui de demain pour le coup. Mais on est dans la continuité du décret dont on parle, puisque le texte effectivement est un texte très très restrictif par rapport aux conditions d'accueil d'aujourd'hui et aux conditions dans lesquelles on accorde ou pas le droit d'asile aux migrants. Donc le Macron assume une ligne très dure. Contestable de mon point de vue, qui est contesté par tous les gens qui s'occupent de ces questions-là, et qui politiquement pour lui est, je trouve que c'est le premier sujet sur lequel il est pris en défaut par rapport à ses promesses de campagne. Et la preuve, c'est que c'est aussi le seul sujet sur lequel il y a on n'est pas au niveau d'une fronde encore, mais voilà, il y a ça remue un petit peu.
Ça fait discuter dans la majorité.
Ça discute et il y aura des voix dissonantes. Et moi, c'est ça qui me gêne le plus en fait, parce que pour le coup, pendant la campagne, Macron a capitalisé là-dessus sur voilà, je vais faire ce que je dis, et depuis qu'il est aussi en poste, hein, je fais ce que j'ai dit. Là, je trouve qu'il ne fait pas ce qu'il a dit. Il a eu une tonalité très humaniste, très généreuse pendant la campagne. Il a applaudi Angela Merkel quand elle a ouvert ses frontières, et depuis qu'il est président, eh ben il fait l'inverse.
Alors Aurélie Motarivet, il y a prendre. Aurélie Motarivet.
C'est intéressant parce qu'on est en plein sur finalement un sujet qui est un marqueur de bipolarisation en France entre la gauche et la droite sur ce sujet de l'immigration. Autant sur les dossiers économiques et sociaux, il est passé sans encombre, il a dépassé les clivages politiques. Donc là, c'est vraiment un test intéressant. Et vous l'avez dit, je pense que l'enjeu, c'est est-ce que la majorité va se fissurer ou non à l'Assemblée nationale ? Est-ce que Richard Ferrand va réussir à garder les troupes unies ? Et par ailleurs, en termes de communication, ce qui est intéressant, c'est quand même, on joue encore sur le « en même temps ». On a d'un côté Collomb qui est sur la ferme fermeté, vous l'avez dit, qui joue un peu le côté obscur de la force. Et puis on a le retour du Jedi avec Aurélien Taché sur une ligne beaucoup plus humaniste. Et donc je trouve que c'est intéressant de voir si on va trouver le juste équilibre de la force.
Ce qui est étonnant, c'est que ce sont deux socialistes aussi, deux anciens socialistes, Gérard Collomb comme Aurélien Taché. Mais juste pour aller dans votre sens, Paul Quignot, c'est vrai qu'on a vu aussi Emmanuel Macron continuer à vouloir accueillir pendant que Gérard Collomb, même était déjà ministre de l'Intérieur, allait à Calais pour dire arrêter les appels d'air. Donc il y avait en effet ce double discours à un moment.
Je trouve effectivement qu'on est dans un double discours et on est surtout dans un discours qui accompagne voilà, une idée dans l'air du temps que je trouve un peu nauséabonde parce que je ne crois pas que la France a pris sa juste part, comme Macron l'avait dit.
Je crois qu'il faut faire attention avec les mots nauséabonds, compagnie. Il faut quand même retourner sur terre. Je vais vous dire, il y a 50 millions à 100 millions de personnes qui voudraient venir en Europe. Il faut arrêter d'être dans la stratosphère. Pardon.
Je ne suis pas dans la stratosphère du tout.
Non, mais si, parce qu'on a vu avec Angela Merkel. Angela Merkel a failli perdre les élections parce qu'elle a effectivement accueilli 1 million et 2 millions. Et on voit très bien ce que ça donne. Ce n'est pas un problème d'humanité seulement. C'est un problème de savoir, au moment où il y a 7 millions de chômeurs d'un côté et au moment où on donne un certain nombre... Vous savez, Emmanuel Macron, vous dites, il tenait ses promesses de campagne. Mais il avait assuré qu'en fin 2017, il n'y aurait pas un SDF dans les rues. Okay ? Il y en a combien dans Paris ? Il y en a combien en France de SDF qui crèvent ? Ça, on n'en parle pas. Non, on parle. Il faut mettre tous les migrants. Le problème est très simple. Je suis érythréen.
Faut pas mettre les uns contre les autres. On va pas mettre les SDF.
Je ne mets pas contre les uns contre les autres. Je suis érythréen ou somalien. J'ai envie de venir en Europe parce que je sais que j'aurai des avantages et c'est normal. Au lieu de s'occuper de l'aide au développement dans ces pays.
Absolument. Là, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, là.
Pour qu'il n'y ait pas cette espèce de flot, on fait le contraire. On dit, voilà, on va avoir tel avantage, tel avantage, tel avantage. Et alors, c'est quoi? C'est électoral, c'est quoi? Il y a quand même quelque chose qui n'est pas sain ni qui est obscur dans cette histoire.
Albert Zemmour.
On voit bien avec cette loi asile et migration comment Macron se prend un peu les pieds dans sa majorité. Alors, je ne sais pas si ça ira jusqu'au frondeur. Pour l'instant, c'est de la grogne. On verra si Laurent Wauquiez a eu tort de dire que c'était des rigolos. Est-ce qu'ils vont aller, est-ce que certains, puisque à un moment certains voulaient monter un groupe de gauche sociale, de marcheurs sociaux.
C'est ça.
Donc on verra si comment ils se comporteront. J'ai du mal à penser qu'ils votent contre ou qu'ils s'abstiennent. Mais on verra bien le texte. On voit bien que c'est avec cette loi asile immigration, c'est un peu le retour de la gauche morale. La gauche qui estime que la France doit accueillir, doit porter son poids et doit accueillir des immigrés, doit accueillir des réfugiés, doit accueillir des migrants et que la tradition française doit être respectée.
Mais qui dit ça là? Parce que là, c'est pas du tout le propos de Gérard Collomb.
Ah non, c'est pas le propos de Gérard Collomb. Non,
d'accord. On parle de ceux qui
s'opposent. On voit ce retour-là. Une chose est certaine, c'est que Macron joue un peu sur du velours. L'opinion est avec lui. C'est un peu comme sur la réforme du code du travail. Une partie des syndicats était contre, mais l'opinion était avec lui. Et là sur l'asile et l'immigration, une grande partie de l'opinion est avec lui.
Alors on va voir ça dans un instant. On va continuer à en parler. L'info à 20h40. Julie Smul.
Laurent Wauquiez veut porter plainte et saisir le CSA après la diffusion de ses propos polémiques dans l'émission Quotidien. Des méthodes de voyous, dit le patron des Républicains. Les journalistes, d'après lui, se sont livrés à des manipulations et lui ont tendu une embuscade. Laurent Wauquiez assume ses propos, sauf ceux concernant Nicolas Sarkozy. Il lui a d'ailleurs présenté ses excuses. 3600 communes en moins sur la nouvelle carte des zones agricoles défavorisées, carte dévoilée ce soir par le ministère de l'Agriculture, qui doit maintenant être validée par la Commission européenne. Les agriculteurs qui se trouvent dans ces zones touchent des aides supplémentaires. Ceux qui vivent dans les Deux-Sèvres, l'Indre, la Loire, le Loiret et le Maine-et-Loire risquent d'en perdre. Moins de morts dans des accidents de la route au mois de janvier, 235 personnes tuées le mois dernier, c'est 20 de moins qu'en janvier 2017. Toujours des bombardements du régime syrien sur la région rebelle de la Routa, une centaine de civils tués aujourd'hui, 250 morts depuis dimanche, 3 hôpitaux sont ce soir hors service. Et puis un record battu pour la France dans ces JO de Pyeongchang, 5 médailles d'or, la dernière en date c'est celle du relais mixte en biathlon ce midi, Anaïs Bescon, Marie-Dorin Humbert, Simon Destieux et Martin Fourcade. Martin Fourcade qui devient le sportif français le plus titré de l'histoire des Jeux, été et hiver confondus.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on prend un peu d'avance hein, parce que ça sera le grand sujet de discussion demain, le projet de loi asile et immigration, on en parle depuis bien le mois de décembre hein, déjà, oui c'est vrai qu'on est en février, le mois de décembre donc asile et immigration présenté par Gérard Collomb demain au Conseil des ministres, on en parlera également à l'Assemblée nationale. Aurélie Montarrivé, c'est vrai ce que disait tout à l'heure quand même Paul Quignot, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il changé comme ça de point de vue sur ce sujet? Il était assez généreux, comme on dit cet adjectif pendant la campagne, est-ce que c'est justement par rapport aux enquêtes d'opinion, parce que soi-disant, il ne regarde pas les enquêtes d'opinion, on sait qu'en fait, il regarde toutes les enquêtes d'opinion. Est-ce que c'est ça aussi, finalement, qui ont fait changer?
Je pense que c'est vraiment un marqueur, on l'a dit tout à l'heure, mais très important et très clivant, qui bipolarise le débat public en France. Et donc, il faut qu'il aille chercher en même temps l'électorat à droite et l'électorat à gauche, et donc la fermeté, d'une certaine manière, et l'humanité. Il faut essayer de trouver ce juste équilibre qui est très compliqué. Et donc, il est dans cette équation un peu impossible, effectivement, et on voit qu'il y a effectivement des hésitations, et je pense que vous avez raison, l'opinion, quelque part, l'a ramené sur plus de fermeté in fine.
Mais Paul Quignot, c'est ça, c'est finalement cette opinion, on le voit hein, d'ailleurs, c'est pas le premier d'ailleurs, même sous Manuel Valls, François Hollande.
Je pense que l'opinion est effectivement sur cette position-là. Juste pour répondre à André Bercoff, je ne suis pas sur une ligne idéaliste, naïve, ouvrons les frontières à tout le monde et tout ira bien. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que je trouve que le texte n'est pas équilibré, que je n'entends pas de discours fort sur les politiques européennes à mener, et que je pense que si la France, quand Angela Merkel a ouvert les portes et s'est effectivement retrouvée dans la difficulté, parce que là, vous avez raison, si la France avait joué son rôle, elle aurait peut-être été, elle, un peu moins en difficulté, comme les Italiens auraient été moins en difficulté si la France avait joué son rôle, et les Grecs. Donc, et je n'entends pas, à côté du texte qu'on nous présente demain, de discours de volontarisme sur cette politique européenne, et on le sait que c'est la seule solution, qu'il n'y a pas de réponse nationale à cette question des flux migratoires. Alors, et qui à mon avis en plus ne fait que commencer, donc on peut ériger des murs partout, d'accord. Ne pense pas que ça sera une solution.
Non, mais il y a plusieurs choses, mais on va pas parler du passé, mais il y a eu quand même plusieurs choses, là je suis d'accord avec vous tout à fait, mais l'absence de politique européenne, c'est l'absence d'Europe, en tout cas l'absence d'Europe sur ce sujet, il n'y a eu aucune
mais le président pourrait avoir un discours fort là-dessus, on ne l'entend pas.
Oui, mais je vais vous dire, en même temps, ce qui est terrible, vous savez, on parlait de la Turquie dans les informations, et le fait que la Turquie, il faut le dire, massacre les Kurdes en ce moment, pendant que nous parlons, alors que les Kurdes ont été les seuls à se battre contre Daesh. Mais pourquoi je parle de la Turquie? Parce qu'il y a un deal avec la Turquie en disant, si vous ne faites pas, et si vous ne cédez pas, je lâche mes migrants chez vous. Il faut le savoir, ça, c'est pas une invention. Deuxièmement, il y a eu l'histoire de la Libye. Sarkozy avec la Libye, qui a détruit complètement et qui a retribalisé un régime qui était déjà tribalisé. Regardez, tout s'est passé avec la Libye. 2011, formidable, on libère du joug de Kadhafi. Eh ben, résultat des courses, on le paye, et on le paye cher.
Ouais, et pourtant, c'est vrai qu'il y a des années, au départ, quand on a vu cette répartition, au départ, 60 000 personnes pour la France, on est 65 millions, 60 000 personnes, c'était pas quand même un chiffre énorme?
Non, c'est pas énorme. Il y avait.
On a vu des gens, justement, comme Laurent Wauquiez aussi faire des pétitions, des choses comme ça. Et pour l'instant, sur les centres de migrants, on peut pas dire que ça soit quand même une guerre civile.
Non, mais le problème, c'est pas que ça a été. Pardon, juste. Ça a pas été organisé. Écoutez, je suis allé près de Bergerac l'autre fois. Bon, problème, c'est l'organisation. Je dis pas qu'il faut pas accueillir, mais quand vous avez un village de 100 habitants où on en ramène, on leur dit voilà, vous allez prendre 50 migrants. Ils savent pas, ils connaissent pas. Alors ça se prépare, ça se pédagogise.
Oui, mais sauf qu'on sait que ça se passe la plupart du temps très bien quand le travail de préparation est fait, et que au bout de quelques semaines, quand il y a de l'inquiétude, les choses rentrent dans l'ordre assez tranquillement.
Albert Zinou, pardon.
Pour faire un peu d'histoire, quand Hollande avait minoré le nombre de réfugiés acceptés en France, il était dans une position politique très faible. Il n'était pas en mesure d'imposer à la France un choix migratoire comme Merkel, qui elle était surpuissante dans son pays à l'époque, l'a fait. D'ailleurs, aujourd'hui, ça s'inverse. L'AFD, dans un sondage paru hier, le parti d'extrême droite allemand dépasse pour la première fois le SPD en intention de vote.
C'est
catastrophique, Il faut revoir ça à l'aune des opinions publiques aussi. C'est très compliqué.
Est-ce qu'on est aussi là-dedans, finalement, au niveau d'arrivée, ce chantage aussi, finalement, de certains populistes, aujourd'hui, on le voit en Allemagne, de dire, regardez, si vous continuez à accueillir, regardez ce que ça fait. Est-ce qu'on est dans ce chantage-là aussi?
Pourquoi chantage?
Parce qu'on est dans ce chantage, tout simplement, de dire, on est totalement immobilisé. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire.
Si votre population a des problèmes, alors alors la population, il faut changer de peuple, quoi.
Ah non, pas du tout.
Dissoudre le peuple.
Si je peux répondre,
je crois que vous l'avez pointé du doigt. En fait, le sujet, il est double. Il y a effectivement une réponse nationale à avoir d'une certaine manière, parce qu'on est obligé de traiter le sujet, vous avez raison. Mais il y a les sujets de fond, et vous l'avez dit aussi tous les deux, c'est finalement de traiter les sujets de développement, en particulier en Afrique, qui est un territoire qui se développe avec une très forte croissance. Et donc, il faut aller chercher les sujets de fond et de développement durable dans la durée et pas être dans des solutions court-termistes politiciennes.
Alors, encore un point de vue politique, puisque demain, on imagine qu'il y aura de nombreux élus du Front National qui commenteront ce projet de loi, mais il y aura une question qui leur sera posée, je pense par tous mes confrères, hein. Que pensez-vous de ce que va faire Marion Maréchal Le Pen jeudi prochain? Puisque l'ex-députée du Var est en effet invitée du rassemblement annuel des conservateurs américains. Alors, c'est une réunion qui se tiendra à côté de Washington avec comme invité, quand même, ça c'est précis, Donald Trump, Mike Pence, le vice-président américain, ou encore Nigel Farage, l'un des artisans du Brexit. C'est un retour en politique pour la nièce, peut-être. Hein. Selon ses proches, son discours de 10 minutes portera sur le fait de nouer, je cite, un conservatisme des deux rives. Albert Zinnou, c'est un an après son retrait de la vie politique. Est-ce que c'est un retour?
C'est un début de retour. Ouais. Personne n'a cru à son retrait total de la vie politique. Donc, on savait bien qu'elle s'était donné un certain temps. Là, je pense qu'elle crante un peu, son retour. Elle imagine quelque chose. Il faut savoir que Marion Maréchal Le Pen appartient à cette mouvance de la droite et de l'extrême droite qui est la droite hors les murs, qui cherche à créer des ponts entre le Front National, l'extrême droite, et puis la droite qui serait compatible. Une partie des LR, Jean-Frédéric Poisson, Dupont-Aignan.
La droite Wauquiez, vous voulez dire?
Comment?
La droite Wauquiez.
La droite, une partie de la droite Wauquiez aussi. Il y a une volonté de créer cette union des droites, pour redonner à droite. Elle a cette possibilité peut-être de nouer quelque chose.
Alors il y a une chose justement, André Berko, je voudrais vous entendre sur ce sujet, sur ces conservateurs américains. Est-ce qu'ils inspirent justement Marion Maréchal Le Pen?
D'abord, je rappelle que les conservateurs américains, en tant que tel, ce qu'on appelle les conservateurs classiques, haïssaient Trump. Il faut le savoir.
Oui, mais
ça revient. Anecdotique. Mais les revues des conservateurs disaient jamais Trump qui est faux conservateur, etc. Pour revenir à Marion Maréchal Le Pen, en fait, sa stratégie à elle, on parlait de la stratégie de Wauquiez, pas si elle va arriver, mais ce qu'elle essaye de faire, c'est aussi capitaliser sur les nombreux abstentionnistes. On sait très bien ce qui s'est passé, tous, vous savez, aussi bien que moi, les abstentions en France, par qui a été élu les 17%, etc. Elle imagine, elle pense, et puis d'autres, que dans cette France périphérique dont parlait Christophe Guilluy, dont un certain nombre de petits artisans, petits commerçants, ouvriers, etc., délaissés à gauche comme à droite, il y a un réservoir, à part le Front National et à part la droite dont vous parliez, il y a un réservoir important. D'accord. Et c'est là-dessus, elle va essayer de faire une refondation, à tort ou à raison, sauf qu'il faudra qu'elle se débarrasse de la marque et du logo.
Hein. Oui, mais exactement, mais est-ce que c'est pas un petit peu juste ce que le Front National a visé pendant la campagne, ça, justement cette France périphérique, et ça lui a pas forcément réussi?
Non, parce que à ce moment-là, elle était philippotisée et elle était sur l'euro et l'Europe.
Alors,
la philippotisation ne lui a pas tellement réussi.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h50, Julie Smul.
La Turquie et la Syrie face à face ce soir dans l'enclave kurde d'Afrin, au nord-ouest de la Syrie. C'est là que les Turcs mènent depuis un mois une opération contre les Kurdes. Des milices pro-syriennes se sont déployées aujourd'hui sur place, provoquant aussitôt des bombardements de la Turquie. Au même moment, au sud de la Syrie, la région de la Ghouta est toujours pilonnée par le régime. Une centaine de morts, aujourd'hui 250 en 48 heures. Les hôpitaux notamment sont visés par les bombardements. Trois d'entre eux sont ce soir hors service. Laurent Wauquiez ne s'excuse pas ce soir, il assume ses propos, ceux qui font le buzz depuis quelques jours, enregistrés pendant sa conférence devant des étudiants lyonnais. Le patron des Républicains annonce qu'il porte plainte et qu'il va saisir le CSA. D'après lui, les journalistes de Quotidien ont utilisé, je cite, des méthodes de voyous. La même peine qu'en première instance requise ce soir contre Jérôme Cahuzac, 3 ans de prison ferme, 5 ans sans pouvoir être élu. L'ex-ministre du budget jugé en appel pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Et puis un peu plus de 14 000 communes sur la nouvelle carte des zones agricoles défavorisées. Carte dévoilée par le ministère de l'Agriculture qui doit maintenant être validée par l'Europe. Les agriculteurs qui se trouvent dans ces zones touchent plus d'aides européennes. Ceux qui risquent d'en perdre, ce sont ceux qui sont installés dans ces 5 départements, les Deux-Sèvres, l'Indre, la Loire, le Loiret et le Maine-et-Loire.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on en parlera bien sûr jeudi de ces 10 petites minutes, plutôt vendredi, de ces 10 petites minutes de discours. C'est Marion Maréchal Le Pen. Mais ce n'est pas en France, non, c'est aux États-Unis, juste à côté de Washington. Elle interviendra, elle est invitée par le rassemblement annuel des conservateurs. Aurélie Motte-Tarrivé, est-ce que voilà, c'est une forme de retour, même si elle, elle dit non, c'est juste comme ça pour voir ce qui se passe.
Oui, évidemment, elle travaille sa stature 2022, c'est évident, elle densifie son image à l'étranger. Mais surtout, ce que je trouve très touchant, c'est qu'en pleine vacances de février, elle envoie une jolie carte postale à sa tante, bon baiser de Washington, au moment où finalement sa tante est très fragilisée, elle est prise entre et coincée entre finalement les patriotes et son père. Et surtout, on se souvient de la comparaison terrible à l'image de Marine Le Pen qui prenait un café en bas de la Trump Tower, puisque Trump, Donald Trump, n'avait pas accepté de la recevoir, alors même qu'elle était candidate à la présidentielle. Là, Marion Maréchal Le Pen va s'exprimer après le vice-président, donc c'est de très haut niveau, et la veille du président. Donc, elle a vraiment compris et intégré, je pense, finalement, la nouvelle génération des politiques, et elle ringardise de ce fait tout son camp politique.
Alors, une chose quand même, Paul Quignot, sur ce rassemblement annuel des conservateurs, j'ai relevé quelques conférences auxquelles les 6 millions participants vont pouvoir assister. Alors, c'est des titres avec des jeux de mots. Voilà, on essaye. Alors, c'est comment l'extrême-gauche et les médias dominants couchent ensemble, ou Kim Jong-un University, comment les campus universitaires deviennent des camps de rééducation. Voilà, donc alors, Paul Quignot, est-ce qu'une internationale du conservatisme, est-ce que c'est ça finalement que vise aujourd'hui un peu Marion Maréchal Le Pen? Un peu, voilà, on retrouve ces thèmes dont parlait André Bercow, ce déclassement aussi, voilà.
Il y a clairement, que ce soit aux États-Unis, dans certains pays européens, je pense à la Pologne, à la Hongrie, chez nous un petit peu, oui, il y a des thématiques effectivement qui se recoupent. Après, je pense que là, pour le coup, le message, il est surtout à destination de sa tante, ce qui vient d'être dit. Voilà, coucou, je n'ai pas complètement disparu, et c'est d'autant plus difficile pour Marine Le Pen qu'on sent qu'elle a quand même du mal à se redresser après son échec lors du débat face à Emmanuel Macron pendant l'entre-deux-tours. Donc, elle, c'est pas un retour, c'est voilà, la petite stratégie des petits cailloux. On en aura un autre dans 6 mois. Et à mon avis, Marine Le Pen aurait raison de s'inquiéter.
Oui, Albert Zanou.
Moi, je crois que l'espace politique de Marion Maréchal Le Pen n'est pas si grand que ça. Elle appartient à cette tradition de l'extrême droite française très traditionnaliste. Elle avait des positions sur le mariage, sur l'avortement, sur la famille, qui étaient très, 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 très marquées.
On se souvient des divisions pendant la campagne présidentielle,
d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et on voyait bien, contre Philippot, il y avait des tensions, et contre sa tante aussi. Marine Le Pen, il y avait des tensions. Et là où Marine Le Pen avait gagné, c'était en ayant un discours très, très social, en singeant, pour raccourcir, on disait que c'était le front de gauche, Mélenchon avec noir anti-immigration. Anti-immigration. Mais, et donc, elle n'a pas ça. Donc, elle reste sur un positionnement quand même très droite, très, très droite. Donc, est-ce que ce sera suffisant?
Alors, André Bercow, est-ce que ces gens, justement, les conservateurs américains, est-ce que Donald Trump, c'est toujours une référence, finalement, aujourd'hui, comme on voit pour Marion Maréchal Le Pen? On voit qu'elle a été invitée, elle a été repérée, en fait, par Sarah Palin. Sarah Palin, on se souvient, c'était la colistière de John McCain, le conservateur contre Barack Obama.
En Alaska,
bon, qui a pas forcément brillé. Il y a ensuite Breitbart News, justement, qui est leur tête de gondole, justement.
Sauf que
Steve
Bannon a été aussi
injecté. Est-ce que, finalement, c'est toujours une référence?
Non, si vous voulez, ce qui est intéressant dans cette histoire, juste pour rapport aux dates, c'est que, comme vous savez, Jean-Marie Le Pen publie le premier tome de ses mémoires.
1er mars.
Comme par hasard, à mi-mars. Je dis pas que c'est fait exprès, mais c'est intéressant. En fait, pour résumer la chose, et pour revenir au début des informés de France Info, si Wauquiez trébuche, Marion a vraiment quelque chose à jouer.
Oui, c'est ça.
Je crois que vraiment une des chances de Marion, dans Maréchal sa stratégie à elle, c'est que Marion Maréchal Le Pen, c'est que Wauquiez trébuche et effectivement est, je veux dire, plus ou moins éliminé ou plus ou moins marginalisé. Parce que là, il n'y a plus personne.
Oui. Aurélie Motte-Tarrivé, est-ce qu'on est dedans? Justement, on a parlé de Laurent Wauquiez en début d'émission. Est-ce que c'est toujours cette stratégie de prendre des voix au Front National? On a vu qu'elle avait pu fonctionner un moment pour Nicolas Sarkozy et puis qu'il avait trébuché dessus. Est-ce que ça fonctionne encore ou les électeurs frontistes aujourd'hui ne se font plus avoir, en fait?
Moi, je pense qu'effectivement, c'est une stratégie, mais qu'en général, les les Français préfèrent l'original à la copie.
Oui.
Et donc, moi, j'ai tendance à penser que Marion Maréchal Le Pen, aussi parce qu'elle incarne sans doute plus une nouvelle génération qui maîtrise parfaitement les codes, elle est très jeune, des nouveaux médias, qui est très internationale, finalement, elle ringardise aussi d'une certaine manière Laurent Wauquiez et qui a peu d'espace, à mon sens, politique sur ce sujet.
Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Demain, on consacrera une large page, justement, à la Syrie. Merci beaucoup Aurélie Motarivé d'être passée ce soir. Merci André Bercoff. La Une de Libération, Paul Quignot, demain.
C'est sur la loi immigration avec le président qui serre la main d'un migrant dans un centre de rétention. Et notre manchette, c'est « Et en même temps, j'expulse ».
Très bien, trouvé dans Libération. Et la Une du Figaro, demain.
C'est sur l'immigration aussi, sur la loi qui divise la majorité.
Très bien, il est temps pour nous de retrouver Olivier Delagarde. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Jean-Mathieu, comment allez-vous ?
Très bien, et vous-même ?
Mais écoutez, c'est formidable.
Et vous êtes vaillant ce soir, tout est politique au programme.
On va parler d'une sorte de trio diabolique. Politique, justice, médias. Pour ce faire, on sera avec l'avocat Patrick Maisonneuve, on sera avec le magistrat ancien député Georges Fenech, nous serons avec Bruno Cotrès, le politologue, et le sénateur socialiste et ancien ministre Jean-Pierre Sueur. Tout est politique, c'est dans quoi, trois petites minutes.
On va dire ça. Allez, je vous accorde 3 minutes ce soir. Allez, tout est politique, c'est à suivre sur France Info.